Et comme chaque semaine, on vous propose un essai qui a marqué la pensée économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'économie comportementale avec Richard Thaler et son ouvrage « Misbehaving ». Bonjour Günther Kapel-Blancard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur également à la Paris School of Business. Alors vous vous souvenez peut-être de la courte apparition de Richard Thaler dans le film The Big Short, le casse du siècle d'Adam McKay, sorti en 2015. L'économiste américain, né en 1945, qui expliquait le fonctionnement des CDO synthétiques, ces titres financiers, aux côtés de Selena Gomez. Richard Thaler qui est considéré donc comme l'un des pères de l'économie comportementale. Économie qui a contribué à achever l'homo economicus et sa rationalité supposée.
Oui, hein, l'objectif de Richard Thaler, dès le début de sa carrière, c'est eh bien de dénoncer cette hypothèse qui est cruciale, hein, qui est fondamentale pour les économistes, cette hypothèse de rationalité. Hein, le terme que vous employez, c'est vraiment le bon terme. Hein, on parle d'homo economicus. Hein, l'homo economicus, c'est cet agent un peu fictif qui est parfaitement rationnel, qui est parfaitement informé, qui anticipe à long terme, ce super-héros un peu.
Et alors avant lui, plusieurs économistes avaient ouvert la voie de l'économie comportementale. On peut citer Herbert Simon, Daniel Kahneman et puis plus tard Peter Diamond, Alvin Ross et Robert Shiller. Il s'inscrit dans la continuité de ces économistes dont beaucoup ont reçu d'ailleurs le prix Nobel de l'économie comme lui le recevra en 2017.
Alors c'est vrai que c'est pas le seul à avoir fait de l'économie comportementale. Vous avez cité d'illustres chercheurs hein, qui mêlent économie et psychologie. Mais je crois que ce qui caractérise Richard Thaler, c'est qu'il a réussi à introduire ces éléments de psychologie au cœur de l'édifice.
Et justement, dans son livre Misbehaving, qui est plutôt une autobiographie intellectuelle, il raconte tous les combats de l'économie comportementale pour s'imposer dans ce milieu particulièrement difficile et hostile.
Oui, c'est ça. Hein, c'est une autobiographie qu'il a voulu faire. Hein, c'est pas un traité d'économie, c'est pas un essai. Il a voulu raconter, comme vous le dites, ce combat. Ce combat qu'il a livré pendant 40 années pour imposer, eh bien, une révolution hein, au sein de la finance. Il parle lui-même de révolution, pourquoi ? Parce que c'est vrai que pendant les années 60, 70, 80, l'économie était très axée sur cette hypothèse d'ultra-rationalité, l'économie était très mathématisée, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'où le terme révolution. Au départ, hein, chez Adam Smith notamment, on parle beaucoup des émotions, de la morale. C'est des choses qui étaient présentes initialement et qu'on peu à peu disparu pour laisser place donc à ces modèles très formalisés. Et lui prône pour un retour justement à ces concepts qui sont importants.
Alors Richard Thaler va également contribuer à remettre en question la théorie de l'efficience des marchés. Que dit cette théorie d'abord et comment sera-t-elle battue en brèche par Richard Thaler ?
Alors, c'est vrai que Richard Thaler va s'intéresser à ce concept d'efficience. L'efficience, c'est un concept clé en finance. Alors, pourquoi il s'intéresse à la finance? Au départ, c'est un économiste. Il s'intéresse à la finance parce qu'il se dit la chose suivante. Si j'arrive à démontrer que sur les marchés financiers, où les enjeux sont extrêmement importants, c'est des millions, des milliards de dollars, où les agents qui interviennent sur ces marchés sont très informés, sont bardés de diplômes. Si j'arrive à montrer qu'il y a un peu d'irrationalité dans ce champ, dans ce secteur, alors je pense que je serai très convaincant. Donc de la même manière qu'il va à l'université de Chicago pour donner du crédit à ses travaux, il se dit, voilà, je vais m'intéresser à la finance. Donc au moment où il s'intéresse à la finance, on est à l'apogée de la théorie de l'efficience des marchés. Qu'est-ce que ça signifie? L'efficience des marchés, ça signifie tout simplement que les marchés fonctionnent bien, parfaitement. L'efficience, c'est l'efficacité optimale. Il y a une optimalité sur les marchés financiers qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et comment on démontre cela? Eh bien, pour appuyer cette démonstration, les universitaires de Chicago, la théorie standard, met en avant le fait que sur les marchés, les prix sont imprévisibles. Si vous n'êtes pas capable de battre le marché, c'est que le marché est plus fort que vous. Et c'est en ce sens qu'il est efficient.
Avec cette idée aussi que le prix sur les marchés est le prix qui correspond à la valeur.
Alors, c'est bien là où il y a une subtilité. Effectivement, tout le monde va être d'accord pour dire qu'il est extrêmement difficile de battre le marché. Vraiment extrêmement difficile. Et les partisans d'efficience en déduisent de fait que les prix donc reflètent les fondamentaux. Et Richard Thaler va reprendre ces deux propositions et va dire « mais ces deux propositions ne sont pas liées ». Effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il est difficile de battre le marché. Pour autant, ça ne veut pas dire que les prix reflètent les fondamentaux. Les prix sont parfois très éloignés des fondamentaux. et il va réaliser quelques expériences qui vont convaincre vraiment tout le monde de cette inefficience des marchés.
Alors justement, quelles sont les expériences qu'il met en place? Comment est-ce qu'il va prouver cette inefficience dont vous parlez?
Alors, il a réalisé une expérience qui est très drôle. Hein. Il a utilisé pour cela un jeu qu'il a proposé au Financial Times. Donc évidemment, personne parmi les lecteurs du Financial Times n'était au courant. L'idée, c'était de choisir un nombre entre 0 et 100, avec l'objectif de deviner quels seraient les deux tiers de la moyenne des chiffres choisis. Alors ça peut paraître très abscon. Je vais prendre un exemple.
Il faut imaginer ce que les autres estiment et prédisent.
Exactement. Si vous permettez un exemple, je pense que ça pourra simplifier plus. Pour l'éditeur. À l'oral, c'est pas évident. Imaginez que tous les auditeurs jouent à ce jeu et donnent des chiffres. Celui qui gagne, c'est celui qui s'approchera donc des deux tiers de la moyenne. Donc, si les gens donnent des chiffres au hasard, la moyenne entre 0 et 100, la moyenne c'est 50. Et donc, l'auditeur qui sera le plus malin, ce sera celui qui donnera le chiffre 33. Mais cet auditeur qui pense à 33 de manière très rationnelle doit aussi intégrer le fait que, autour de lui, les gens vont pas forcément répondre au hasard. Et donc, les gens, s'ils sont rationnels, vont aussi répondre 33. Et si tout le monde répond 33, la moyenne c'est 33, et pour gagner, il faut donner deux tiers de la moyenne, donc 22. Et puis, on peut avoir le raisonnement avec une étape, deux étapes, N étapes. Au final, on converge vers ce qu'on appelle, nous, en économie, un équilibre de Nash. Nash, un mathématicien assez illustre, hein. Il y a un film qui rend hommage à ses travaux. L'équilibre de Nash est un équilibre important en économie, et en l'occurrence, cet équilibre, c'est zéro. Si on est parfaitement rationnel, faut donner zéro, parce que c'est le résultat vers lequel on devrait converger si tous les gens sont rationnels. Sauf qu'en pratique, il met en place ce jeu dans le cadre du Financial Times, et les gens ne répondent pas zéro. On a des gens qui vont répondre leur date d'anniversaire, on a des gens qui vont répondre complètement au hasard, et le gagnant, en fait, le chiffre gagnant, c'est 13. Donc on est très éloigné, du résultat optimal si tous les gens étaient rationnels. Et la conclusion de tout à l'heure, c'est finalement de dire, qu'est-ce qui est rationnel? C'est adopter le raisonnement d'un économiste ou gagner? Gagner, c'est finalement ce qu'il y a de plus rationnel. Et pour gagner, eh bien, il faut introduire une dose de psychologie dans son raisonnement.
Et donc, il faut postuler que les autres peuvent être irrationnels ou au contraire que si tout le monde est rationnel, ça ne marche plus.
Alors, il ne s'agit pas tant de postuler que les autres sont irrationnels, mais simplement de dire que les autres peuvent se tromper. Vaut mieux prendre en compte les erreurs commises par les autres, anticiper ce que les autres peuvent commettre comme erreur, plutôt que d'essayer absolument d'avoir raison. Et on a plein d'exemples, évidemment, lors des bulles spéculatives. Quand il y a une bulle spéculative, si, en tant qu'économiste, moi, je suis convaincu qu'il y a une bulle spéculative, rationnellement, je devrais être amené à vendre, pour profiter donc de la crise qui va succéder à la bulle. Mais ce serait une erreur de ma part. J'ai tout intérêt, au contraire, à profiter de la bulle spéculative, même si je pense que les autres ont tort.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce faisant, Richard Taylor réfute finalement l'approche d'inspiration darwinienne qui est basée sur la sélection naturelle et qui sous-tend une bonne part de la théorie économique néoclassique.
Exactement. C'est un élément vraiment fondamental de la théorie économique. On se dit que tout le monde n'est pas parfaitement rationnel sur les marchés ou dans l'économie, mais c'est ceux qui sont plus rationnels qui vont perdurer, qui vont subsister. Donc même si tout le monde ne l'est pas, au final, c'est les agents rationnels qui comptent.
Et alors dans les années 2000, Richard Taylor théorise avec le juriste Cass Sunstein le concept de nudge, que l'on peut traduire par coup de pouce, et qui est l'un des outils d'intervention du paternalisme libertarien que promet Taylor.
Oui, non seulement Richard Taylor donc a des travaux théoriques, mais en plus, il va essayer de proposer des recommandations en termes de politique économique. Donc son point, je vous l'ai dit, hein, c'est les agents se trompent. Eh bien, on va essayer de tirer parti de ces erreurs. On va tirer parti de la paresse des individus. Par exemple, dans le cas des produits d'épargne, aux États-Unis, vous savez que l'épargne est moins gérée par l'État qu'en France, par exemple. Donc, les salariés sont invités à épargner. Mais les démarches sont un petit peu lourdes. Donc, on peut construire un système où on impose aux salariés d'épargner pour leur retraite, avec toutefois cette option qu'ils ont de se retirer du programme.
C'est d'inciter tout en laissant la liberté.
Exactement. Vous parliez tout à l'heure de paternalisme libéral, c'est bien ça. On va inciter les individus à adopter certains comportements sans les contraindre. Hein, c'est une voie à mi-chemin entre bien du dirigisme étatique et le libéralisme. Hein, et c'est la voie que prône Taylor, c'est le nudge.
Et alors justement, quelle politique publique ça a inspiré? Je crois qu'il y a des exemples à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Alors il y en a aux États-Unis, il y en a au Royaume-Uni, il y en a partout. Et il y a même des initiatives privées. Par exemple, récemment, il y a une initiative mise en place par beaucoup de banques qui est très courante. Quand vous vous rendez chez un commerçant maintenant et que vous payez en carte bleue, vous avez cette option d'arrondir chacune de vos transactions. Donc vous allez au Monoprix, vous avez pour 43,85 €, eh bien on va arrondir à 44 €, et la différence ira sur votre compte épargne. C'est une façon de se forcer à épargner.
Mais en termes de politique publique, le nudge a plus été utilisé par Barack Obama par exemple, ou par les conservateurs britanniques, qu'en France. On a peu d'exemples en France de politique publique liée au nudge.
Alors, c'est évidemment plutôt d'inspiration anglo-saxonne, puisque c'est quand même basé sur une forme de libéralisme. En disant cela, on soulève une des critiques qui est souvent adressée au nudge, c'est que ce sont pas des politiques d'envergure. Il s'agit d'une politique à petits pas. On va essayer d'améliorer les choses petit à petit. Donc c'est pas très spectaculaire, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément en tête d'exemple incroyable à donner, mais dans l'esprit de tout à l'heure, c'est en avançant à petits pas qu'on change le monde.
Et en même temps, on voit bien les dérives possibles d'un système pareil. C'est un concept qui peut être utilisé par l'État aux dépens des citoyens ou par l'entreprise aux dépens des employés.
Bien sûr, c'est une autre critique, vous avez tout à fait raison, c'est de la manipulation. Mais ce coup-ci, on manipule dans le bon sens. Le nudge, même si on n'utilise pas ce terme, mais c'est du marketing au fond. Par exemple, on nous incite fortement à nous abonner à des services à long terme, parce que on sait que finalement les consommateurs ont rarement le courage de se désabonner. C'est du nudge à l'envers. Donc l'idée du nudge, c'est d'essayer de faire ça pour améliorer le sort des gens plutôt que pour profiter d'eux.
Comment est-ce qu'on peut résumer ce que Richard Thaler a apporté à la théorie économique, puisque la question qui se pose aussi, c'est est-ce que la boîte à outils du chercheur a véritablement été modifiée en profondeur?
Oui, donc sur le fond, ce qu'il introduit, c'est cette idée que les individus font des erreurs et pour autant, c'est pas irrationnel. On peut rationnellement faire des erreurs, par exemple, le mimétisme, c'est parfaitement rationnel. Souvent, on considère ça comme une forme d'irrationalité, à tort. Ça peut être utile de copier sur son voisin, ça peut être utile de copier certains investisseurs sur les marchés. Et puis, il a eu aussi un impact important sur la méthode en économie. Pendant longtemps, c'est 20-30 dernières années, l'économie devenait de plus en plus sophistiquée. C'était une discipline qui devenait de plus en plus mathématique. Aujourd'hui, c'est pas le seul, mais il y a davantage de pluridisciplinarité. Il y a l'introduction de la psychologie. D'autres économistes, Thomas Piketty notamment, va plutôt faire appel à des approches historiques. Donc il y a plus un mélange des genres et Richard Thaler a contribué à cela. D'ailleurs, Richard Thaler le dit lui-même, au-delà des grandes théories, ce qui est le plus important, c'est les anecdotes, c'est les histoires, c'est les anomalies. Et tous ces travaux de recherche qui ont été pourtant publiés dans les meilleures revues, les revues les plus prestigieuses, c'est toujours basé sur des idées très simples, des calculs très simples, des histoires très simples.
Et en même temps, aujourd'hui, quels sont les signes qui prouveraient que l'économie est bel et bien traversée par les sciences sociales, par la psychologie? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire une persistance de cette idée d'un homo economicus rationnel?
Alors, vous savez, il y a un délai entre la recherche et les applications. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans les principales revues, les revues les plus prestigieuses, il y a énormément de travaux qui empruntent la direction ouverte par Richard Thaler et d'autres. Comment ça se traduit sur les politiques économiques? Vous me posiez la question tout à l'heure. Comment ça se traduit au quotidien? C'est encore un petit peu tôt pour avoir une traduction importante.
Merci beaucoup, Gunther Cappel-Blancard, de nous avoir fait découvrir cet ouvrage de Richard Thaler. Misbehaving, sous-titré Les découvertes de l'économie comportementale, a été publié aux éditions du Seuil. Un grand merci.